France Inter.
Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'ultimatum des Européens envers le Kremlin. Un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours dès lundi en Ukraine. Faute de quoi, de nouvelles sanctions seront prises contre Moscou. Les détails dans un instant, avant de nous rendre à Moscou. L'autre cessez-le-feu du jour, celui entre l'Inde et le Pakistan, négocié directement entre les deux pays, sous la médiation des États-Unis. Islamabad rouvre son espace aérien. À Évian-les-Bains, un pompier est toujours entre la vie et la mort, percuté peut-être volontairement. En tentant d'évacuer un rodéo, le suspect est en garde à vue. Bruno Retailleau, sur place, dénonce une société qui fabrique des barbares. Et puis en fin de journal, nous irons chanter en même temps que nous visiterons l'Opéra Garnier à Paris à l'occasion de l'opération Tous à l'Opéra. Et puis le temps de demain dimanche, Céline Dacosta, avec un ciel encore bien orageux sur l'ouest.
Oui, averses orageuses entre la Bretagne, la Normandie et les Pyrénées. On aura également quelques coups de tonnerre sur les Alpes.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Donald Trump et les Européens sont désormais main dans la main pour réclamer un cessez-le-feu dès lundi en Ukraine, faute de quoi les sanctions s'aggraveront contre la Russie. Aujourd'hui à Kiev, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne sont revenus au cœur de ce dossier en proposant donc cet ultimatum à Moscou avec l'appui de Donald Trump. Un cessez-le-feu complet et inconditionnel, a précisé le président français Emmanuel Macron.
Nous avons à l'instant, tous ensemble, ici présents avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Pas de condition préalable à ce cessez-le-feu, ni de la part des Ukrainiens, ni de la part des Russes, qui a vocation à durer 30 jours, sur terre, dans les airs et en mer, avec une surveillance assurée principalement par les États-Unis d'Amérique, et auquel tous les Européens qui y sont prêts contribueront, et de manière immédiate, les travaux et négociations entre les parties prenantes pour bâtir cette paix robuste et durable sur la question des territoires, la question des infrastructures énergétiques sensibles et la question évidemment des garanties de sécurité.
Emmanuel Macron ce matin à Kiev, et c'est vous Maxence Lambret qui avez recueilli ces propos durant la conférence de presse des dirigeants européens aux côtés de Volodymyr Zelensky. Bonsoir Maxence.
Bonsoir.
Les Européens renforceront donc les sanctions contre la Russie si le cessez-le-feu n'est pas respecté dès lundi en Ukraine. Il s'agit bien d'un ultimatum.
En effet, un ultimatum formulé dans toutes les langues cet après-midi dans les jardins du palais présidentiel ukrainien. 5 pupitres, 5 drapeaux, 5 hommes déterminés à faire vaciller Vladimir Poutine grâce au soutien de Donald Trump avec qui ils ont échangé à l'issue de leur réunion.
En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agréés que des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et américain.
C'est la nouveauté de ce sommet, l'implication des États-Unis grâce à l'accord signé sur les minerais, grâce au tête-à-tête Trump-Zelensky à Rome il y a 15 jours lors des funérailles du pape François et grâce à l'impatience du président américain. Avant même cette conférence de presse, Moscou a posé une condition au cessez-le-feu, la fin des livraisons d'armes occidentales. Une manœuvre de plus s'agace les Européens. Volodymyr Zelensky, t-shirt et veste noire, ne cache pas son scepticisme.
Nous ne nous faisons aucune illusion. Il y aura des violations du cessez-le-feu, mais c'est un pas très important.
Cela fait tout juste 2 mois qu'il propose cette trêve. Elle devient un impératif du camp occidental qui, pour l'instant, ne révèle rien des sanctions imaginées, évoquant simplement le pétrole et le système bancaire russe.
Et quant à savoir si des Européens ou d'autres pays de la coalition enverront des troupes en Ukraine pour faire respecter ce cessez-le-feu, les dirigeants européens n'ont donné cet après-midi et ni ce matin, ils n'ont donné aucune réponse précise. Merci Maxence Lambrec à Kiev avec les moyens de Jérémy Thuil. Et on attend une prise de parole de Vladimir Poutine d'un instant à l'autre. Bonsoir Jean-Didier Revoin.
Bonsoir.
Dans la journée, le Kremlin a dénoncé une attitude de confrontation des Européens envers la Russie sans répondre pour autant à cet ultimatum.
Non, effectivement, Vladimir Poutine est en consultation avec les invités qui étaient là pour les chefs d'État qui étaient là pour les célébrations du 9 mai hier. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que les perspectives de nouvelles sanctions contre la Russie annoncées depuis Kiev n'impressionnent pas le Kremlin. Hein. Le pays s'est déjà habitué à de telles mesures de pression et sait comment minimiser leurs conséquences, a expliqué son porte-parole. Dmitri Peskov a ajouté que Vladimir Poutine était prêt à entrer en contact avec tous les dirigeants des États du monde dans la mesure où ils sont prêts à le faire. Mais pour accepter une trêve dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine, la Russie a posé des conditions très claires, hein, à savoir, on l'a dit, un arrêt des livraisons d'armes occidentales, tout en soulevant la question de la surveillance du cessez-le-feu et surtout des force chargée de dénoncer d'éventuelles violations de cette trêve. Alors, reprenant des informations de la chaîne américaine NBC, des médias russes évoquent une liste de 22 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qui devrait être présentée à Vladimir Poutine par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump sur l'Ukraine, sans qu'on en connaisse la date pour l'instant.
Et à l'instant, le Kremlin dit qu'il va réfléchir à cette proposition de cesser le feu en Ukraine. Il va réfléchir, dit à l'instant la télévision d'État. C'était Jean-Didier Revoin, en direct de Moscou. Et puis l'autre cesser le feu du jour, celui entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad a même rouvert son espace aérien fermé ce matin. Donald Trump a été le premier à l'annoncer en début d'après-midi. Un cesser le feu immédiat, dit-il, et total après une nuit de négociation sous la médiation donc des États-Unis. Correspondance à New Delhi de Com Bastin.
On connaît peu de détails sur la façon dont Donald Trump et les deux pays sont parvenus à se cesser le feu, mais il a été confirmé par leurs gouvernements respectifs. Des deux côtés de la frontière du Cachemire, disputée entre l'Inde et le Pakistan, c'est le soulagement, notamment pour les civils pris entre les feux des armées. Ce samedi, la tension était à son comble, alors que le porte-parole de l'armée pakistanaise lançait une large opération de représailles contre l'Inde. Cette riposte faisait suite à une nuit de combats acharnés. L'Inde avait visé et endommagé plusieurs bases aériennes du Pakistan, qui avait lui lancé des attaques de drones dans 26 zones frontalières. Les vérifications indépendantes sur les frappes entre les deux pays étaient impossibles, les fake news pullulaient, mais l'idée que l'on se dirigeait vers une guerre entre puissances nucléaires faisait son chemin, d'autant que les appels à la retenue de la communauté internationale était resté sans effet.
Com Bastin à New Delhi. La branche armée du Hamas a diffusé aujourd'hui une vidéo de deux otages israéliens en vie dans la bande de Gaza. 3 minutes durant lesquelles l'un des deux hommes appelle à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. L'AFP, qui relaie cette information, n'était pas en mesure ce soir de déterminer la date de l'enregistrement.
France Inter, Éric Delvaux.
À Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, le principal suspect qui a grièvement blessé un pompier est désormais en garde à vue. Il a 19 ans, une seconde personne est en garde à vue. Le pompier qui est entre la vie et la mort était en train de disperser un rodéo ce matin devant sa caserne quand il a été percuté par la voiture du chauffard, et l'enquête devra dire s'il s'agit d'un geste volontaire, comme le laissent entendre d'autres pompiers témoins de cette scène. Margot Steve.
Oui, vers 6h ce matin, plusieurs pompiers interviennent pour faire cesser un rodéo urbain, deux voitures qui font des dérapages près de leur caserne. Le ton monte et d'après les premiers témoignages recueillis, l'un des deux conducteurs à l'arrêt redémarre brutalement, heurte un pompier en civil et manque de percuter un autre qui parvient à l'esquiver. Le suspect a été interpellé. Selon le procureur de Thonon-les-Bains, c'est un homme de 19 ans. Il était légèrement alcoolisé au moment des faits. Des capsules de protoxyde d'azote, du gaz hilarant, ont été retrouvés dans sa voiture. Le conducteur du deuxième véhicule a aussi été interpellé cet après-midi et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau était sur place cet après-midi. Il évoquait une tentative d'homicide et il évoque aussi une société qui fabrique des barbares. Et puis on l'a appris ce matin à Bordeaux également. Un rodéo a été dispersé hier par les forces de l'ordre. Il y avait 500 voitures, près de 3000 personnes. Depuis 2018, la loi française associe les rodéos motorisés à des délits. Le texte a même été renforcé récemment en rendant possible la confiscation des véhicules. Or, depuis, les chauffards de rodéo n'hésitent plus à voler des motos ou bien à louer des voitures. À l'origine de ce renforcement de la loi, la députée Natalia Pouzireff du groupe Ensemble pour la République.
Moi, j'ai fait rajouter dans la loi que les juges devaient prendre en compte les faits matériels et géographiques, c'est-à-dire que si c'est toujours au même endroit où se passent des rodéos, si ce sont toujours les mêmes personnes avec toujours les mêmes motos, il n'y a pas de raison, même si la moto ne lui appartient pas, de la rendre à son propriétaire. Ensuite, pour les voitures, il peut y avoir aussi le problème de la location de véhicules loués. Donc, c'est par ce biais-là, la confiscation, que l'on veut agir.
Voilà, les rodéos urbains, donc une malédiction pour un très grand nombre de maires et de villes. C'est ce que dit ce soir François Bayrou. Le Premier ministre réagissait cet après-midi à Brest, où il participe aux cérémonies en cette journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Près d'un millier de militants d'ultra-droite ont défilé cet après-midi à Paris à l'appel d'un comité du 9 mai pour commémorer la mort de l'un d'entre eux, décédé il y a 31 ans. Il avait fait une chute accidentelle lors d'une manifestation. La préfecture de police de Paris avait initialement interdit cette manifestation annuelle de l'ultra-droite, arguant d'un risque de trouble à l'ordre public, mais depuis, le tribunal administratif de Paris a suspendu cette interdiction. Les premières prises de position du pape Léon XIV a souligné ce matin l'importance de la question sociale face au défi de l'intelligence artificielle. Le nouveau pape a redit également combien il s'inscrivait dans la lignée de son prédécesseur François. François à qui les fidèles sont nombreux à venir rendre hommage à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, là où il est inhumé. Reportage en Italie de Cécile Bidot.
Dans la nef située à gauche de la majestueuse basilique, c'est un défilé ininterrompu de fidèles qui passe devant la tombe de marbre blanc portant l'inscription Franciscus. Pas de statue ni d'ornement comme l'a souhaité le pape François, seulement une croix et quelques fleurs.
C'est très simple, j'ai failli même passer sans, oui. Ah, c'est ça, oui.
Maria est venue de Bretagne pour voir le nouveau pape et rendre hommage à l'ancien.
Cette simplicité-là, je pense que le pape actuel va aussi continuer à transmettre au monde avec sa part à lui de l'amélioration du monde, quoi.
Jean, en pèlerinage à Rome depuis quelques jours, sort tout juste de la basilique et voit aussi des ponts entre les deux papes.
On est heureux de pouvoir être témoin de ce passage de relais du coup avec le pape Léon. C'est une grande joie aussi pour nous de se dire qu'il allait continuer à œuvrer dans le sens de François aussi, du coup aller vers les périphéries, être vraiment un pasteur pour l'unité dans le monde, etc. Donc ouais, c'est une grande source de joie pour nous.
Sainte Marie Majeure étant l'une des quatre basiliques papales de Rome, le pape Léon XIV s'y rendra pour en prendre possession, selon l'expression consacrée. Ce sera le 25 mai.
Cécile Bidot, envoyée spéciale à Rome. Et puis demain, sur la loggia de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV récitera le Regina Caeli, cette prière qui remplace l'Angélus pendant la période de Pâques. En France, la mort du fondateur des éditions de La Martinière, Hervé de La Martinière, avait 78 ans. Sa maison d'édition est dédiée aux beaux livres, aux livres illustrés, notamment ceux de Yann Arthus Bertrand. Le football avec l'OM qui pourrait bien se qualifier dès ce soir directement en Ligue des Champions. À 21h, les Olympiens, deuxième du championnat de Ligue 1, rencontreront Le Havre, 16e au classement. Les Marseillais n'ont que 2 points de plus que le 6e Strasbourg et donc à Marseille, on reste certes confiant, mais aussi méfiant, Bruno Blanza.
D'ailleurs, quand on fait remarquer à l'entraîneur Roberto De Zerbi que sa formation a un calendrier abordable, cela ne lui plaît pas. Pour vous qui écrivez, ce calendrier est peut-être facile. Mais si vous portiez le même t-shirt que moi, vous ne le verriez pas si simple. Ce match est très difficile, surtout maintenant. C'est une équipe qui est là, à la lutte. Ça va être une bataille. C'est pour cela que je parle d'humilité. Parce que si on pense que ce sera plus simple que Lille, la semaine dernière, on se trompe. L'OM a pourtant tout pour ne pas déraper au moment d'entrer dans la dernière ligne droite. On sent une formation solide et qui lâche enfin les chevaux ces derniers temps.
C'est sûr qu'on va gagner.
Julien reste confiant.
Tout le monde s'est remis un peu en question, ou que ça a un peu tapé du poing sur la table dans le vestiaire, mais là ça se voit, c'est plus la même équipe. Il y a de la hargne, il y a de l'envie, il y a le pressing, il y a tout qui fonctionne ensemble. Après, il y a aussi le retour de Balerdi en défense, ça fait vraiment du bien. Là, on sent vraiment une énergie positive.
Qui doit permettre à l'OM de retrouver la Ligue des Champions et peut-être dès ce soir en cas de scénario très favorable.
Alors, on verra ça à partir de 21h. Bruno Blanza, ici Provence. Avant de refermer ce journal, je vous propose une visite de l'Opéra Garnier à Paris. Car partout en France, ce week-end, les opéras ouvrent leurs portes. C'est la 18e édition de l'opération Tous à l'Opéra, avec donc des visites gratuites et des ateliers de chant. Des milliers de personnes se sont donc pressées à l'emblématique Opéra Garnier. C'est un reportage de Benjamin Hilly.
Figaro, Figaro, Figaro. Voilà, j'ai réussi à le faire chanter. Figaro, Figaro. Tout autour de l'opéra, une file d'attente qui encercle littéralement le bâtiment.
Après, moi, je viens de la campagne en plus, donc moi, j'ai pas accès à de l'opéra. Enfin, pour moi, l'opéra, c'est un truc de Paris, et oui, un peu plus élitiste.
Pas de bourré.
Alban de Châtelu, je suis en charge du protocole et des relations extérieures.
Les gens admirent un danseur ou un figurant qui est en train de se grimer en Don Quichotte. Là, il y a des danseuses juste derrière nous qui sont en train de répéter.
Une journée comme aujourd'hui, peut-être qu'ils vont se dire « Bon, bah maintenant, je connais, je vais peut-être essayer de m'acheter une place et emmener ma mère ou emmener ma fiancée. » On peut trouver une place à 15-30 euros, mais évidemment, elles sont prises tout de suite, quoi.
Et donc l'atelier chant, c'est en bas, c'est ça?
Comme le chien quand il aboie.
Bouf.
Je viens de la Creuse et j'en rêvais, je le fais. J'ai l'impression de faire partie de ce grand ensemble prestigieux.
Tu rentres. Plutôt que de la chanter en italien comme dans l'opéra, on va la chanter en chinois.
Validé?
L'opération Tous à l'Opéra, reportage de Benjamin Hilly à l'Opéra Garnier. Avant la météo, je vous redonne cette information tombée pendant le journal. Le Kremlin qui affirme donc qu'il va réfléchir à la proposition de cesser le feu en Ukraine présentée ce matin par les alliés occidentaux réunis à Kiev. Moscou qui précise en même temps qu'il est inutile de faire pression sur Moscou. C'est ce qu'affirme à l'instant la télévision d'État russe. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec encore des orages demain.
Oui, sur l'ouest du pays, surtout entre la Bretagne et les Pyrénées le matin. Orages qui gagnent ensuite la Normandie, la région centre, le Limousin, l'ouest du Massif central et de l'Occitanie dans l'après-midi. Les éclaircies reviendront d'ailleurs dans l'après-midi sur l'arc atlantique après le passage de ces orages. Pour le reste du pays, le ciel sera voilé le matin. Puis on aura une alternance de nuages et d'éclaircies avec un petit peu plus de soleil au nord de la Seine. Et puis on surveillera quand même les Alpes. Pour avoir quelques coups de tonnerre et les Cévennes où une averse n'est pas à exclure.
Et pour les températures?
C'est toujours frais demain matin sur le nord-est, 4 à 8 degrés, 9 à 15 degrés ailleurs. Quant au maximal, elle baisse un petit peu après le passage des orages sur l'ouest, donc 17 à 21 degrés, 20 à 25 degrés encore pour les autres.
C'était Céline Dacosta.